J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 139. Nous sommes dans les psaumes ce matin. Je lirai donc ce psaume 139 qui est de David. Nous avons déjà évoqué la plume de David ce matin. Et puis nous lirons deux petits versets dans Matthieu. Psaume 139, c'est au... Un psaume, un poème écrit pour être chanté, adressé au chef des chorales, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon âme n'était pas cachée devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis, un petit écho de ce psaume, en tout cas de la première partie de ce psaume, dans Matthieu chapitre 28, tout à la fin de son temps avec ses disciples, Jésus, sur le point de les quitter, s'approche et leur parla ainsi. Je lis à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence constante de Dieu avec nous. On pense souvent à l'Ancien Testament comme ayant moins de choses à nous dire, à nous apprendre, que le Nouveau Testament. C'est une erreur. Car premièrement, l'Ancien Testament, c'est la Bible que lisait Jésus. Il n'en avait pas d'autre. Ensuite, l'Ancien Testament, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour se révéler à son peuple. Pendant des siècles, c'était la parole de Dieu pour l'être humain. Nous ne pouvons pas donc l'évacuer comme étant de moindre importance. C'est par l'Ancien Testament que nous avons toutes les instructions de vie, surtout celles qui nous apprennent à savoir ce qui plaît à Dieu ou ce qui déplaît à Dieu. Lorsque j'ai appris à connaître mon épouse, une des premières choses, tous ceux qui sont en couple, tous ceux qui tombent amoureux, savent à quel point ça compte d'apprendre à savoir qu'est-ce qui plaît ou qui déplaît à l'être aimé. Vous voulez savoir ce qui plaît et ce qui déplaît à Dieu? Eh bien, c'est dans l'Ancien Testament que vous devez apprendre, que vous pourrez apprendre à comprendre ce qui attriste Dieu, ce qui l'afflige et ce qui le réjouit, ce qui le fait sourire lorsqu'il vous regarde vivre. Et puis, quatrième considération, c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons en premier le lien étroit entre Dieu et ses enfants, et notamment dans les psaumes qui contiennent tellement de tranches de vie de ceux qui cherchaient à connaître Dieu, à le suivre, et de la façon dont il leur parlait. L'Ancien Testament contient quelques exemples merveilleux de relations personnelles avec Dieu, et ce psaume 139 en est un aperçu poétique extraordinaire. Un chant écrit par David, un homme qui connaissait particulièrement Dieu. Nous allons parcourir brièvement tout le psaume en regardant les grandes lignes de ce que ce psaume nous apprend sur la présence constante de Dieu, puis nous reviendrons brièvement sur les premières parties du psaume qui nous sont des rappels de deux choses qui sont très importantes pour la vie du chrétien, que les théologiens appellent l'omniprésence de Dieu, Dieu partout, et l'omniscience de Dieu, Dieu qui sait tout, la présence constante de Dieu et la connaissance absolue de Dieu. Les versets 1 à 6, donc, nous apprennent que Dieu nous connaît entièrement. Nous ne pouvons pas le surprendre. Il sait exactement de quoi nous sommes capables. J'y reviendrai. Les versets 7 à 12 nous apprennent que Dieu nous regarde tout le temps. Le regard panoptique de Dieu. Dieu qui nous voit tout le temps. Nous ne pouvons pas lui échapper. Nous ne pouvons pas aller quelque part où il ne nous voit pas. Nous y reviendrons aussi. Ensuite, les versets 13 à 18, David, fort de cette assurance de la présence constante de Dieu dans sa vie, s'élance dans une sorte un élan d'enthousiasme et de louange. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse, tes pensées me dépassent. David est émerveillé par Dieu. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous le louons. C'est le propre de la louange. David est émerveillé par son œuvre de création du corps humain, les versets 13 à 16. De la destinée humaine, mes jours sont dans ta main, tu les connais tous, tous sont écrits dans ton livre, verset 16. David est émerveillé par la sagesse et la grandeur de Dieu, qui le dépasse, mais dont il pressent la valeur et l'importance, les versets 17 et 18. Et puis un petit rappel de cette présence constante de Dieu au verset 18, où il dit, je m'éveille, tu es encore là, tu es encore avec moi. Le matin, je me réveille, te voilà encore Dieu dans ma vie. David est tellement émerveillé par Dieu qu'il ne comprend pas ceux qui le rejettent, ceux qui refusent Dieu, d'où les versets 19 à 22, où là, ayant tourné son regard émerveillé vers Dieu, il ne peut pas s'empêcher d'être affligé par ceux qui rejettent Dieu et qui se montent en ennemi contre le Seigneur. Ce sont des versets un peu difficiles à interpréter. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu l'expression « les psaumes imprécatoires », les psaumes qui demandent, la prière c'est « Dieu fais tomber ta punition sur ceux qui sont violents, sur ceux qui sont méchants, sur ceux qui sont mes ennemis. » Ces textes semblent en contradiction avec les paroles de Jésus aimez vos ennemis, alors que David veut débarrasser la terre des injustes et des assassins. Mais ça ne vous est pas arrivé à vous de détester quelqu'un? Allez, je vais le dire, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'en suis pas fier, mais c'est la réalité de ma vie. Et je pense que c'est probablement la réalité de votre vie aussi. Ce sont des versets qui, malgré le fait que j'ai entendu des prédications où on saute ces versets-là. Juste avant le verset 19, on sert de verset 18, puis bon, on reprend notre lecture au verset 23. Alors, on évite cet inconfort de ces quelques versets-là. Il y a quatre considérations en lisant ces textes. Tout d'abord, le fait que David insiste sur la perfection de sa haine. Le problème avec la haine, c'est qu'elle est imparfaite. C'est qu'elle est motivée par notre égoïsme, notre orgueil, nos intérêts propres, notre sens de l'injustice qui est particulièrement penché en notre faveur personnelle. David dit « Je les hais d'une haine parfaite ». Il est possible que cette haine soit une erreur. Les psaumes disent parfois des choses qui, prises de manière isolée, sont l'expression de choses fausses dans l'absolu, mais qui, au moment où le psalmiste écrit, reflètent son sentiment et son émotion du moment. Il est possible que David se trompe et on le... C'est une des interprétations possibles de ce texte, dans les versets 23 et 24, où il demande à Dieu de l'examiner au plus profond de lui-même et de rediriger ses pas, si nécessaire. C'est possible que David pressent qu'il y a là quelque chose qui peut-être déplaît à Dieu, dans cette haine, dans cette façon de détester les autres, et qu'il demande à Dieu de rectifier dans les versets 23 et 24. Et puis n'oublions pas qu'il s'agit d'une prière adressée à Dieu. Vous détestez quelqu'un, vous avez de la haine pour quelqu'un, bien je vais vous dire, la meilleure chose à faire, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu. C'est une prière adressée à Dieu, ce n'est pas un ordre de mission donné à ses soldats. Il n'est pas en train de dire à ses soldats, allez exécuter ce que je déteste. Il est en train de demander à Dieu de s'occuper d'un monde où l'injustice par moments semble régner. Nous pouvons prôner l'amour des ennemis et la gentillesse envers nos adversaires, mais avons-nous vraiment envie de vivre dans un monde où il n'y aurait aucune rétribution pour le mal, pour le lynchage par les racistes, pour la cruauté des terroristes, pour l'exploitation des petites gens par les grandes corporations industrielles? Voulons-nous vraiment vivre dans un monde où il n'y aurait pas de compte à rendre pour la méchanceté, la violence, le meurtre? Martin Luther King, un des apôtres de la non-violence et pasteur baptiste, souligne dans son recueil de prédications « La force d'aimer » que son action n'a de sens que parce qu'il a confiance en un Dieu qui demandera un jour des comptes pour leurs crimes aux racistes, aux violents et aux tyrans de ce monde. Et puis nous avons ces versets de la fin du psaume, versets 23 et 24, où David se remet entre les mains de Dieu. Il se reprend peut-être, c'est une lecture possible de ce psaume, car peut-être sent-il que l'harmonie entre lui et Dieu est rompue par la haine qu'il éprouve à l'égard de ses ennemis et surtout de ceux qui rejettent Dieu. Il demande à Dieu d'éprouver ses préoccupations. Ce n'est pas juste le péché que Dieu veut rectifier en nous, vous le savez ça. Ce n'est pas juste le péché qu'il veut remettre en place. Il y a plein de choses, des petites tendances, des petites habitudes, des choses que Dieu aimerait rectifier pour mieux nous transformer à l'image de son Fils. Peut-être que la façon de traiter ceux qui nous font du tort ne correspond pas à ce que Dieu veut. Nous savons que David était un homme de guerre. C'était un homme qui avait remporté de grandes batailles, qui avait tué par ses luttes armées de nombreux ennemis du peuple d'Israël. Et il semble, à la lecture de la plupart des textes bibliques, que ces guerres étaient nécessaires, établir la paix en Israël à l'époque. Mais nous savons aussi que lorsqu'il a voulu construire le temple de l'Éternel, lorsqu'il s'est dit « Moi je vis dans un palais et Dieu est encore dans une tente ». Tabernacle. construisons-lui un temple. Eh bien, Dieu lui a dit non, ce sera ton fils Salomon, ce qui veut dire paix, qui construira ma maison. Parce que toi, tu as trop de sang sur les mains. C'est ce que Dieu a dit à David. C'est intéressant de savoir que le sang versé, même par David, même dans les guerres justes de l'époque, ne plaisait pas à Dieu. Mais revenons à la première partie de ce psaume. Je ne sais pas si pendant la lecture vous écoutiez les profondeurs du cœur de David. Dans ce psaume, nous entendons des échos du parcours un peu chaotique de ce roi, berger, musicien, compositeur de chants. Lorsqu'il parle du fait que Dieu le connaît entièrement, nous pouvons bien sûr y lire des paroles rassurantes. Mais est-ce qu'il n'y a que des paroles rassurantes là? Je n'en suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a autre chose aussi. Je lis aussi une impression diffuse d'inquiétude. On sent qu'à certains moments, David aurait aimé échapper au regard de Dieu. Nous connaissons le parcours de David. C'est quelqu'un qui effectivement a commis des choses, des actes dont il s'est repenti, mais qui étaient honteux, des actes absolument abominables et honteux. Nous le savons. Bathsheba, d'autres moments où il se reposait sur sa propre force, ses propres armées, plutôt que de compter sur l'Éternel. David a vécu ces moments-là. Il pensait, comme tout chrétien qui fait quelque chose qui déplaît à Dieu, il pensait certainement que Dieu ne le voyait pas dans ces moments-là. Ça vous est arrivé de croire que Dieu ne vous voit pas par moment? Moi, oui. Nous disons, nous chantons des belles choses du dimanche matin, nous prions de belles choses à la réunion de prière, et puis il nous semble que devant l'écran d'ordinateur, Dieu ne nous voit pas. Ou dans le secret des pensées que nous cultivons à l'égard de quelqu'un qui ne nous convient pas, Dieu ne discerne pas notre haine ou notre manque d'amour. On sent qu'à certains moments, David aurait certainement préféré une présence moins persistante de Dieu. Et ce thème se retrouve dans le Nouveau Testament. C'est le texte de Matthieu 28 que j'ai lu. Voilà Jésus qui dit aux siens, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La présence de Jésus dans notre vie est une réalité qui comporte une dimension rassurante, mais c'est aussi une présence qui comporte une dimension inquiétante. Si notre relation avec lui n'est pas aussi heureuse qu'elle pourrait l'être. Les versets 1 à 6 nous apprennent que Dieu nous connaît entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire qu'on ne peut pas surprendre Dieu. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous cherchons à les impressionner, la plupart du temps. Heureusement d'ailleurs, parce que si on n'avait vraiment jamais envie d'impressionner les autres, ben, on se laverait beaucoup moins, on se soignerait moins physiquement. C'est une bonne chose que ce matin, on se soit tous regardés un peu dans le miroir avant de venir au culte. Ce n'est pas entièrement mauvais de chercher à impressionner les autres, ou de donner une bonne impression en tout cas. Mais parfois, nous allons beaucoup plus loin, vous le savez, quand nous faisons connaissance avec quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré auparavant, alors on va parler du bon côté de notre vie professionnelle ou de nos études, on ne va pas tout de suite se lancer dans une liste de nos échecs, de nos manquements, de nos défauts. Moi, je ne vais pas vous raconter ici ce matin toutes les critiques que ma femme me dit parfois à mon propos. Elle ne dit pas que des critiques. Pas du tout, pas du tout. Mais voilà, on ne va pas dire ce qui est négatif. On va parler du positif. Mais avec Dieu, eh bien, on ne peut pas l'impressionner. C'est ça que ça veut dire qu'il nous connaît entièrement. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Ni par nos œuvres, ni par notre spiritualité, ni par notre fidélité aux réunions, ni par l'éloquence de nos prières. Dieu ne nous dira jamais « Eh ben, dis donc, bravo je ne savais pas que tu étais capable de ça. Quelle persévérance !» Non, Dieu ne nous le dira jamais parce qu'il nous connaît entièrement. Nous ne pouvons pas l'impressionner. Nous voulons impressionner les gens, mais pourquoi ? Ben pour être reconnus, pour être valorisés, pour être appréciés, pour être aimés. C'est ça que nous cherchons. Alors, quand je dis que Dieu, on ne peut pas impressionner Dieu, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est déjà épris de nous. La Bible utilise à de très nombreuses reprises le sentiment amoureux comme image pour nous aider à comprendre comment Dieu nous regarde. Vous le savez, je ne suis pas le premier à le dire. Hier soir, nous parlions de livres ici. Il y avait un des livres qui était sur la table comme étant un livre aimé par quelqu'un, qui est d'un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Philippe Yancey. Et dans un livre extraordinaire qui a transformé ma vie, qui s'appelle « Touché par la grâce », Philippe Yancey écrit que si Dieu utilise le sentiment amoureux pour nous aider à comprendre ce qu'il ressent à notre égard, c'est parce que, bon, quand nous tombons amoureux, pendant un temps donné, nous ressentons certaines choses très fortes pour une personne bien précise. Il dit, ce que nous ressentons pour un temps donné, pour une personne précise, Dieu le ressent tout le temps pour tout le monde. C'est beau, hein? Ce que nous ressentons pour une personne précise, pour un temps donné, Dieu le ressent tout le temps pour tout le monde. C'est pour ça qu'il utilise l'image de l'amour, de tomber amoureux, du sentiment amoureux, pour nous aider à mieux comprendre. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu, parce qu'il est déjà là, à tout savoir sur nous, et à être épris de nous, intéressé, captivé par nous. C'est comme ça que la Bible le décrit. Mais le revers de la médaille, si nous ne pouvons pas impressionner Dieu, nous ne pouvons pas non plus le choquer, ou le décevoir par nos échecs et nos chutes. Quand je dis « nous ne pouvons pas surprendre Dieu », quand je dis « Dieu sait exactement de quoi nous sommes capables », il sait de quoi nous sommes capables en bonnes choses, en bonnes actions. Il sait aussi de quoi nous sommes capables en termes de mauvaises actions. Il sait à quel point nous pouvons chuter et tomber bas. Dieu sait exactement de quoi nous sommes capables. Nous ne pouvons pas l'impressionner par nos bonnes actions, nous ne pouvons pas le décevoir par nos échecs. Dieu ne nous dit jamais « Eh ben dis donc, je m'attendais mieux de toi. » Dieu ne nous dit jamais « Ah ben, tu me déçois là. J'aurais espéré que tu sois à la hauteur. » Ben non, jamais. Parce que nous ne pouvons pas le surprendre. Et le plus beau de toute l'histoire, c'est que Dieu nous connaît entièrement, parfaitement, et vous savez quoi, il nous aime quand même. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous pouvons lui chanter notre reconnaissance chaque fois que nous y pensons. Dieu nous connaît parfaitement et il nous aime quand même. Et puis il y a ces versets 7 à 12 qui vont un pas plus loin, qui disent, voilà, non seulement Dieu nous connaît, mais en plus il nous regarde tout le temps. Il nous surveille. Nous ne pouvons pas lui échapper. Quand nos enfants étaient petits, et j'ai le droit de vous raconter cette histoire, je leur ai demandé leur autorisation, comme beaucoup de parents, nous étions passionnés par nos bébés. Enfin, on en a eu deux, ils ont 2 ans et demi d'intervalle, donc ça a duré quelques années. Et quand ils étaient tout petits, ils s'endormaient souvent, ils étaient dans leur petit lit, un petit lit rebord métallique peint en blanc, et on était là en train de... On se penchait parfois avec ma femme, avec Amanda, on se penchait par-dessus le petit lit de bébé. « Oh, regarde-moi comme il est beau. Regarde-moi ses lèvres parfaites. Il a tes yeux, ma chérie. Ses oreilles. Regarde-moi la perfection de son petit visage. Qu'il est extraordinaire, qu'il est beau. Évidemment, ça lui arrivait, quand nous étions là, penchés au-dessus de son lit, en train de l'admirer, d'ouvrir les yeux, de se réveiller, d'ouvrir les yeux. Et de nous voir. Alors moi, ça m'est arrivé une fois à l'hôpital. Je venais de me faire opérer, et j'étais profondément endormi. Et je me réveille, et je me souviens du regard, du visage de l'infirmière, juste devant le mien. Ben, je peux vous dire que j'ai pas souri. Hein. J'ai eu peur. J'ai sursauté. En fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je sais que c'était... Mais notre fils, nos fils, quand ils étaient bébés, et qu'ils ouvraient les yeux et qu'ils voyaient le visage de maman et de papa penché au-dessus de leur petit lit, comment ils réagissaient quand ils ouvraient les yeux? Ils souriaient. C'était le sourire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une pleine et entière confiance. C'est un thème qui revient ce matin, je pense que vous l'avez remarqué. Ils avaient une pleine et entière confiance. Le regard de maman et de papa, ben évidemment que maman et papa passaient tout leur temps à les regarder. C'est normal pour un bébé, ils n'imaginent pas qu'on a une autre vie. Un bébé n'imagine pas que maman et papa, ils ont autre chose à faire de temps en temps. Ils pensent qu'ils sont constamment là, ou devraient être constamment là, en train de les regarder. C'est normal, parce que c'est la relation de l'enfant avec ses parents. Ces versets du psaume 139. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Nous sentons dans ces versets de David qu'il y a eu des moments où il aurait aimé que le regard de Dieu soit moins présent dans sa vie. Et donc ce sont des versets qui inspirent différentes choses à différentes personnes selon l'état de notre relation avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez ce matin en vous disant « Dieu voit et connaît tout chez moi, tout le temps. » Je ne sais pas si cela vous fait peur. Ou je ne sais pas si cela vous rassure. Tout dépend de qui Dieu est pour vous. Tout dépend de qui Dieu est pour vous. Si pour vous Dieu est un père, alors cette idée vous rassure. Nous éprouvons une paisible assurance si nous nous voyons comme un enfant qui se sent protégé par son père. Mais nous éprouvons à juste titre une terrifiante inquiétude si nous nous voyons comme un accusé sous l'œil du juge ou de la police. Il est quoi pour vous, Dieu? Père ou juge? Ce n'est pas toujours facile. Le Père, ce n'est pas du tout facile pour certains. Tout à l'heure, nous avons chanté « Mon Père est mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur ». J'ai une amie qui doit se faire violence pour venir dans un culte où elle sait, c'est une chrétienne, où elle sait que certains chants vont évoquer Dieu comme Père. Parce qu'elle a dit « Moi, l'idée de Dieu comme Père, ça me donne la nausée, à cause de ce qu'elle a vécu de la part de son Père ». Et c'est le cas pour beaucoup de personnes de nos jours qui ont du mal avec ces images belles. Et l'image de Dieu comme Père est une belle image, mais qui peut être une violence pour certaines personnes. Heureusement, et c'est la leçon de ce psaume, nous ne sommes pas déterminés par notre passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque à votre relation avec Dieu. Peut-être que vous avez beaucoup plus d'harmonie entre lui et vous que moi je ne connais. Je l'espère. Nous sommes tous à des situations différentes de notre relation avec Dieu. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu, lorsque nous venons vers lui, il nous sourit, il est heureux de nous accueillir, parce que même si notre relation est parfois compliquée avec lui, ce qu'il veut faire, c'est nous changer, nous guérir. Tout à l'heure, nous avons lu le verset, brièvement, ce verset d'Ésaïe 42. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, dit l'Éternel. Ésaïe 42. Et donc, ce matin, ce psaume est une invitation. Si Dieu n'est pas encore votre Père, si pour vous l'idée de Dieu, c'est qu'il est votre juge, c'est qu'il est le gendarme, Alors, les gendarmes, c'est bien aussi. Hein. Je ne veux pas juste... Les juges, c'est bien aussi. Je ne veux pas forcément les peindre sous un mauvais jour. Mais si Dieu n'est que ça pour vous, alors il veut devenir votre Père. Si pour vous, l'idée du Père est difficile, Dieu veut guérir votre idée du Père. Et donc, j'aimerais terminer là-dessus en vous disant, n'oubliez pas que quelle que soit votre attitude envers Dieu aujourd'hui, ce psaume est une invitation à ce que demain, votre relation avec Dieu soit meilleure, soit plus heureuse, pour que le sourire que lui vous porte lorsqu'il vous regarde, vous puissiez lui rendre lorsque vous ouvrez les yeux et qu'au matin, il est encore avec vous. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces échos de choses pénibles et sensibles dans la vie de David, mais qui sont aussi des choses belles lorsque nous le savons les passer au crible de ta grâce. Œuvre en nous, guéris ce qui a besoin d'être guéri, change et transforme ce qui a besoin de l'être, et que nous puissions toujours marcher dans une relation plus intime et harmonieuse avec toi. Nous savons que c'est ce que tu désires. Merci Seigneur pour ton sourire qui nous illumine chaque fois que nous nous tournons vers toi.